Alors tout d'abord, je voudrais remercier aussi les organisateurs du colloque qui me donnent la chance de m'exprimer devant vous et de vous livrer quelques résultats que j'ai pu trouver au cours d'un travail de master. Alors effectivement, entre 1954 et 1962, un affrontement armé s'engage entre d'un côté indépendantistes algériens et État français de l'autre. Et au cours de cette période, les Algériens ont subi une occupation militaire croissante de leur territoire à toutes les échelles. Donc là, effectivement, on voit bien la manière dont l'espace s'est militarisé, ici par les différents découpages, donc depuis le secteur, en passant par la zone militaire jusqu'aux trois corps d'armée, le corps d'armée d'Oran, d'Alger et de Constantine. Et engagé dans ce conflit, qui relève pour la France, entre guillemets, du maintien de l'ordre, l'armée française s'empare, applique et diffuse, à partir des années 1957, les grands principes de ce qu'elle nomme, entre guillemets, la doctrine de la guerre révolutionnaire. Alors, la doctrine de la guerre révolutionnaire, cela signifie que le combat ne se mène plus seulement sur le plan des opérations militaires, de destruction des maquis indépendantistes, mais au sein même des villages, à l'intérieur des villages, dans ce qu'elle nomme les zones de pacification. Concrètement, cette théorie se traduit par des pratiques de contrôle et de restriction fort éloignées des préoccupations d'une guerre conventionnelle. En effet, parce qu'il est question de démanteler des réseaux internes aux villages, le premier souci de l'armée, c'est couper les villageois des indépendantistes. Car, pourquoi ? Parce que les villageois sont considérés comme le soutien logistique majeur des maquis, et le but, c'est de mettre fin à ces contacts. Aussi, cette communication sera essentiellement consacrée aux années 1957-1960. Je reviendrai sur les raisons de cette chronologie resserrée. Pour mieux saisir cette appropriation progressive de l'espace par l'armée française, il me semble intéressant de pénétrer à l'intérieur des villages eux-mêmes, c'est-à-dire de descendre à l'échelle locale de la vie quotidienne des villageois. Et notre propos se focalisera sur deux villages situés en Grande-Kabylie. Donc je vais entourer un peu grossièrement ici. Donc, c'est une région qui possède de nombreuses spécificités et dont l'histoire sur le temps long a bien été étudiée par Charles Robert Ageron, mais je n'ai pas le temps de revenir sur ces spécificités, si ce n'est noter qu'on parle le berbère et pas l'arabe dans cette région. En Grande-Kabylie, et donc on va s'intéresser à deux villages qui se situent juste à côté donc, de cette ville qui s'appelle Azazga, à quelques centaines de kilomètres à l'est d'Alger, et donc ces deux villages, voilà, alors, se situent, donc, là, c'est une carte au 1/50 000e qui date de 1961, donc, pas très visible, mais en tout cas, je vous ai entouré ici le nom des deux villages. Vous avez Aït Bouada, ici, qui est en fait un gros bourg, qui est composé de plusieurs hameaux, qu'on voit ici, et Mokhnea, ici, qui est un village un peu typique des villages kabyles, perché en nid d'aigle, on ne voit pas très bien, mais ici, on culmine à plus de 900 mètres d'altitude. Sur le plan administratif, toujours très rapidement, ces deux villages appartiennent jusqu'en 1956 à une commune mixte, la commune mixte du Haut-Sébaou, donc par opposition à la commune de plein exercice, c'est-à-dire que ce sont des communes qui sont majoritairement peuplées de ce qu'on appelle les indigènes, et donc la présence européenne est très faible, et ce sont des espaces ruraux. Alors, nous focaliserons notre communication sur une pratique spécifique qui est celle du déplacement des individus, ce que les géographes appellent les mobilités. Alors, les mobilités, en effet, nous permettent de cerner de façon précise, il me semble, les enjeux à toutes les échelles de l'appropriation d'un espace colonial en conflit. Pourquoi ? Parce que les autorités militaires ont encadré tous les gestes les plus banals du quotidien qui supposent un déplacement. Se déplacer pour chercher de l'eau, se déplacer pour se ravitailler, se déplacer tout simplement. Donc la réalité d'un territoire progressivement quadrillé a bouleversé et reconfiguré non seulement le rythme de ces mobilités, dans le sens d'une restriction, mais aussi leur forme, puisque les autorités militaires se sont appropriées l'espace de vie des villageois en l'investissant de marquages physiques, tels que barrières, barrages, postes de contrôle, fils barbelés, et qui donc nous poussent ici à réfléchir sur, d'un côté, les réactions des villageois face à un espace rationalisé à l'extrême, et de l'autre, se poser aussi la question de la confiscation ou non de cet espace. À cet égard, l'enquête orale, bien que modeste, parce que effectuée au cours d'une année de master, m'a permis, il me semble, de pouvoir donc donner un aperçu de ces réactions villageoises en les croisant avec des sources à échelle locale, comme les journaux de marche et opération des unités d'armée qui étaient présentes, mais surtout aussi des archives locales administratives. Et enfin, les sources orales permettent aussi de donner peut-être un aperçu des représentations, c'est-à-dire de l'espace vécu tel qu'il est perçu par les villageois. Alors, deux nuances d'emblée que j'aimerais ici mettre en avant. D'abord, noter que la guerre n'est pas une rupture fondamentale, évidemment, dans ces pratiques de mobilité, pour deux raisons. Parce que, d'une part, l'historiographie de l'Algérie coloniale a montré que les déplacements de ceux qu'on appelle les indigènes, étaient déjà soumis en fait à un système de réglementation et de contrôle. Et d'autre part, on doit aussi prêter attention au fait que les déplacements, la liberté de déplacement des individus différait évidemment. Par exemple, si on était une femme, c'était traditionnellement plus limité que la liberté de déplacement des hommes. Donc en quelque sorte, deux parties ici. D'abord, je montrerai quelles ont été la manière dont les mobilités se sont vues progressivement, enfin ont été réduites, contrôlées, pour enfin m'intéresser au cas spécifique des mobilités contraintes, c'est-à-dire des déplacements forcés des villageois par les autorités militaires. Alors, l'une des entraves les plus courantes à la mobilité consiste en l'instauration de laissez-passer qui se généralise pour nos deux villages à partir de 1957. En vue de contrôler non seulement la circulation, mais aussi celle des personnes. Donc, même si ici, je vais m'intéresser plus spécifiquement au déplacement des personnes. L'attribution des laissez-passer est principalement à la charge des sections administratives spécialisées, ou SAS, qui sont une sorte de bureau, en fait, de bureau administratif dirigé par des officiers militaires et qui sont mis en place dès 1955 pour répondre théoriquement à la sous-administration de ces espaces ruraux. Concrètement, ces laissez-passer, ce sont des documents qui doivent être tamponnés afin d'autoriser la circulation d'un lieu à un autre. Ils sont exigés lors des contrôles routiers, lors des barrages militaires, mais aussi lors de barrages volants. On s'assure que l'identité des personnes est conforme aux papiers tamponnés et on s'assure, je cite, que leur déplacement est effectué en conformité avec les règlements concernant les voyages à l'intérieur de l'Algérie. Alors, ces règlements, évidemment, évoluent non seulement au cours du conflit, et ne sont pas uniformes non seulement dans toute l'Algérie, mais même aussi au sein même de la Grande Kabylie. On n'a pas du tout les mêmes règlements. Par exemple, pour notre secteur, la validité des laissés-passer est théoriquement fixée en fonction des distances à parcourir et peut varier de 1 à 8 jours. Donc la règle, c'était normalement de se présenter au bureau, à la SAS, pour faire la demande d'obtention de laissés-passer. Alors, tout ce que je vous dis relève évidemment de la théorie, car concrètement, quand on regarde du côté des pratiques, on se rend compte que les conditions fixées pour les laissés-passer, enfin pour l'attribution des laissés-passer, étaient floues parce qu'elles étaient laissées totalement à l'appréciation du chef de SAS. Donc, parfois, on n'a pas toujours les motifs de refus d'attribution de laissés-passer. Mais ce qu'on remarque, en tout cas, à partir de 57 pour nos deux villages, c'est que le chef de SAS a tendu à ne pas donner de laissés-passer et à rejeter les demandes. Aussi, on comprend que la fonction de ces laissés-passer, ce n'était pas un simple contrôle des déplacements des individus, mais aussi, in fine, dans un contexte de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de guerre révolutionnaire, de restreindre, de réduire les déplacements pour appliquer une pression, à l'endroit des villageois, en pratiquant le refus de ce papier. Ainsi, par exemple, en 1956, on est au niveau très local dans un contexte, 56-57, dans un contexte très tendu dans ces villages. Le FLN a donné l'ordre de faire plusieurs grèves, donc je passe sur les détails, mais en tout cas, suite à ces mouvements de grève, le chef de SAS décide de refuser systématiquement toutes les demandes de laissez-passer pour le village d'Aït Bouada pendant 8 mois. Donc là, on a déjà un cas de refus ici pour, en tant que mesure punitive, finalement, dans un contexte très particulier. Et en avril 1959, le rapport d'activité du chef de SAS écrit tous les laissés-passer doivent être accordés, sauf, je cite, pour Aït Bouada et Mokhnia. Donc on voit bien ici la dimension d'isolement volontaire de ces villageois dans ces villages considérés, je cite, comme acquis à la rébellion. Les villageois font l'objet d'une surveillance particulière hein, de la part des renseignements, des services de renseignement, et l'ensemble, petit à petit, l'ensemble des villageois sont soupçonnés hein, d'être un relais logistique pour les indépendantistes. Donc à partir de 59, on note vraiment une suspicion de plus en plus généralisée à l'endroit des villageois. Et une catégorie a particulièrement fait l'objet de cette surveillance, ce sont ceux qu'on retrouve dans les archives comme étant travailleurs de métropole, on les appelle comme ça. Et très souvent, leurs déplacements sont évidemment extrêmement contrôlés et parfois refusés. On leur refuse hein, le retour en France lorsqu'ils viennent en vacances en Algérie. Mais le contrôle des mobilités villageoises ne concernait pas seulement ces longs déplacements pour aller en ville ou en métropole, par exemple. Il se manifestait aussi à une échelle plus fine, c'est-à-dire à l'intérieur des villages. Et les autorités militaires françaises ont en effet imposé aux villageois une sorte de vie à l'heure française. Alors, pour évoquer cette vie à l'heure française, qui est une expression inspirée du titre de Philippe Burin, La France à l'heure allemande, je voudrais m'intéresser ici à une pratique qui me paraît assez représentative du contrôle de l'espace, non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace social et symbolique des villageois, voire de la confiscation de celui-ci. Et cette pratique, c'est celle qui consiste à se déplacer pour chercher l'eau. Il me semble que l'accès à l'eau a été l'un des points fondamentaux de restriction de liberté pour les villageois. Il a été soumis à certaines conditions d'horaire et de quantité qui ont été mal vécues par les villageois, ou plus précisément par les villageoises, puisque chercher l'eau, c'était une tâche exclusivement féminine. A fortiori dans des villages pendant le conflit, hein, qui sont majoritairement peuplés de femmes et d'enfants. Et durant la guerre, l'accès aux fontaines a été interdit. Donc il fallait se ravitailler dans un point désigné, un point commun désigné par l'armée, un puits commun. Et du coup, le rythme de la vie quotidienne a été ponctué par une sonnerie qui signalait l'heure à laquelle il était possible de se procurer de l'eau, en l'occurrence pour Aït Bouada entre 8h et 10h du matin, d'après mes entretiens. Il y a une quantité qui est fixée aussi en termes de cruches, hein, de quantité d'eau transportée par personne, pour mieux contrôler le nombre de personnes qui y ont accès. Les sorties pour chercher l'eau pouvaient parfois être escortées par des soldats français ou par des supplétifs du village. Dans ses réflexions littéraires sur les villages de Grande Kabylie, Mouloud Fenaoun, qui est un écrivain contemporain du conflit, décrit une sorte d'âge d'or de la société traditionnelle kabyle, où certes le régime patriarcal impose un repli des femmes sur l'espace privé, mais lui réserve une sorte de liberté au féminin, un espace de liberté au féminin qui lui serait propre, l'expédition pour chercher l'eau à la fontaine. Et il décrit donc la fontaine de manière anhistorique, hein, perçue comme un espace approprié par les femmes. Donc je cite Mouloud Fenaoun: « À la claire fontaine, nos jeunes filles vont se promener avec autant de plaisir que dans la chanson célèbre. Il faut se mettre à leur place, elles n'ont pas de djemara, c'est-à-dire d'assemblée, comme les hommes, la fontaine en tient lieu. Là, on peut bavarder, s'amuser et rire en attendant que s'emplisse l'amphore. On y va en groupe, on s'y assemble par affinité, on y apprend des nouvelles, on y échange des potins, on y lit des amitiés. » Alors, cet imaginaire construit par l'auteur autour de la fontaine rend compte d'un certain mode, il me semble, de représentation culturelle de l'espace villageois qu'on pourrait construire en opposition aux restrictions du temps de la guerre. Alors, ce schéma manichéen, évidemment, ne correspond pas à une réalité stricte. Hein. C'est plus, en fait, un arrière-plan mental qu'il faut, je pense, garder à l'esprit pour se rendre compte de ce qui se joue dans l'interdiction émise par l'armée, les autorités militaires, de se rendre à la fontaine. Car c'est tout un imaginaire lié à la liberté de la fontaine qui semble déstructuré par les impératifs de l'occupation militaire. Et mes entretiens ont décrit, en fait, plus qu'une déstructuration, je dirais une restructuration de la vie quotidienne rythmée par les militaires. Donc je cite l'une de mes témoins: « On ne pouvait pas aller n'importe où à n'importe quelle heure. On avait des heures pour aller chercher l'eau, des heures pour laver les vêtements. Il y avait une heure pour tout. » Donc on voit bien ici ce rythme, cet espace vécu comme un espace occupé. Or, bien évidemment, vous vous doutez que s'il existe tout un tas de réglementations, de contraintes, c'est pour être mieux détourné, être mieux subverti. C'est le cas, par exemple, en ce qui concerne les contrôles du ravitaillement. Il y a tout un marché noir qui se développe. Mais moi, je vais plutôt revenir sur les stratégies d'évitement des contrôles, donc de laisser passer, par les villageois. Et notamment l'évitement des couvre-feux, puisqu'à partir de 1959 pour Ait Bouada et 1960 pour Mokhnia, l'armée s'est installée vraiment à occuper ces villages. Et donc à partir de ce moment, il y a eu un couvre-feu. À partir de 20h, toutes les sorties de nuit étaient théoriquement interdites. Or, il semble que les sorties de nuit aient été privilégiées par les villageois pour se déplacer pour des motifs divers. Et ici, j'aimerais revenir un peu longuement sur un de mes témoins, qui s'appelle Hassan, qui est âgé de 19 ans, en 1959, et il décide de quitter son village pour se rendre à Alger, dans l'espoir, in fine, de prendre le bateau pour émigrer en métropole. Et je vous livre ici un extrait un peu long de son témoignage. Donc je lui demande est-ce qu'il y avait des endroits où il ne pouvait pas circuler, et il me répond: ah oui, à l'époque tu ne peux pas sortir quand tu veux. Le jour où on est parti sur Alger, on a dû traverser tout un fleuve et c'était seulement la nuit qu'on pouvait sortir. Tu peux pas marcher la journée. Pour aller à Zazga, fallait avoir un laissez-passer. À l'époque, on y allait sans. Mais depuis que ça s'est serré, là il fallait absolument l'avoir. Pour partir à Alger, il fallait partir la nuit. On a traversé ce fleuve la nuit jusqu'à Tawqir, donc c'est un endroit qui se situe à l'est, avant l'embranchement de l'Abra Nathiraton. À partir de là, on pouvait se montrer comme des voyageurs et c'est seulement là qu'on prenait les transports sans problème. À Tizi Ouzou, on a rencontré un barrage de soldats. On nous avait demandé les papiers. Donc là, après, il me cite, hein, il m'énumère des gens qui l'accompagnent, ils sont 4 ou 5. Les militaires ont demandé nos papiers. Ils nous ont dit « tout le monde à terre pour le contrôle des papiers ». Quand ils sont arrivés à nous, ils nous ont demandé les laisser passer. Et nous, ben, on ne les avait pas. Ils nous ont mis sur le côté, nous ont demandé d'où on venait. Et ils ont vite appelé la SAS d'Ifira. Ils leur ont dit « qu'est-ce qu'on fait de ces bonhommes ?» Qu'est-ce qu'on va faire de ces bonhommes, pardon. À la SAS, ils leur ont dit « faites leur payer une amende de 500 francs. Aujourd'hui, c'est quoi, 50 dinars par personne, et laissez-les filer. Moi, je t'assure, j'avais pas un rond sur moi. En plus, je n'avais pas de carte d'identité, c'était juste un récépissé. » Puis le monsieur Simhan Ferag, qui était l'aîné parmi nous, a demandé qui avait un billet de 500, parce qu'il ne voulait pas montrer qu'il avait un billet de 1000. En fait, à l'époque, on prenait tout l'argent que tu avais sur toi, même si l'amende était de 500 et pas de 1000. Moi, on m'a avancé, et je devais les rendre plus tard. Puis on nous a laissé passer. On était content qu'il nous fasse payer l'amende, ça aurait pu être pire. Alors ce témoignage, donc c'est un entretien qui a été réalisé en Kabyle, donc c'est une traduction personnelle. Il y a plusieurs choses qui émanent. Alors évidemment, le voyage de nuit par des chemins qui s'éloignent des routes goudronnées, puisqu'il passe par un fleuve, hein, qui a été traversé. Et aussi, ce qui est intéressant ici, c'est la dimension peut-être de négociation. C'est-à-dire que on voit bien que ce que je vous décrivais tout à l'heure, théoriquement, les laisser passer, etc., ça pouvait se négocier à coup d'amende, voilà. Et donc là, on voit bien qu'on pouvait tout à fait passer un contrôle sans problème. Donc, les déplacements se faisaient donc en s'éloignant des routes goudronnées, par crainte des contrôles volants ou des barrages. Donc, c'était monnaie courante, et d'où parfois des voyages dangereux, comme celui d'une autre témoin qui s'appelle Melha, et qui est originaire de Mokhnia, et qui a emprunté un fleuve de la même manière qu'Arsène, pour chercher de quoi se ravitailler auprès d'autres villages. Et c'est un voyage au cours duquel son fils est mort noyé. J'ai pas le temps de vous donner son témoignage, mais en tout cas, ce qui ressort de ce qu'elle dit, c'est la peur, l'incertitude, et ici, évidemment, la dimension de risque qui est prise, hein, par les acteurs pour échapper au contrôle militaire. Mais les déplacements n'étaient pas seulement restreints, comme je viens de vous le décrire, ils pouvaient aussi être contraints par des logiques propres au contrôle de l'espace par l'armée française. La politique de quadrillage du territoire et en quelque sorte de destruction d'espaces disponibles pour les indépendantistes a eu des conséquences multiples, y compris des déplacements contraints de villageois. C'est ce que l'historiographie des regroupements a bien mis en évidence. Ici, je vais vous parler d'un aspect un peu singulier, c'est pas tout à fait un regroupement. Donc on va placer ici notre réflexion à l'échelle régionale, on va un peu remonter un peu la focale. Entre le 8, le 9 et le 10 novembre 1957, trois villages voisins des nôtres, donc dans la même région, ont été vidés de leurs habitants et désignés comme zones interdites. Donc les zones interdites, ce sont des espaces que l'armée délimite et qu'elle définit comme des zones qui, par définition, sont des endroits où aucune présence humaine ou animale n'est tolérée sous peine de tir à volonté. Et ce principe s'est concrètement appliqué dans le secteur qui nous concerne à partir de 1957. Donc j'ai réalisé un croquis un peu laid, mais qui montre en fait les logiques. C'est-à-dire que là, vous avez ces trois ces trois pôles qui se situent, donc là c'est la délimitation d'après donc les archives que j'ai vues de la zone interdite, et on voit ici les mouvements, enfin j'ai essayé de cartographier les mouvements de déplacement, principalement vers El Bouada, mais aussi vers le village au nord, Sherfa, et puis de manière plus sporadique à Mournia. On leur a laissé un délai de 3 jours à ces villageois hein, de ces trois villages avant l'expulsion. Donc un laps de temps très court hein, pour préparer leur départ. En somme, on voit bien que ce déplacement contraint était une mesure punitive visant à asseoir la domination militaire française et à couper les villageois des nationalistes. La conséquence est donc cette vague de déplacement forcé des villageois contraints d'aller non pas dans un camp de regroupement créé ex nihilo, mais dans des villages voisins, notamment sur nos deux villages qui ont été désignés comme lieux d'accueil. On voit bien ici la manière dont l'armée s'approprie les villages comme des lieux stratégiques, avec un certain vocabulaire militaire sur lequel j'aimerais revenir. D'abord, on retrouve partout dans les archives l'utilisation par les acteurs de l'époque de la notion de réfugié, de repli et d'évacuation. Alors, ces notions introduisent, il me semble, une forme de contradiction élémentaire entre, d'un côté, la réalité de villageois forcés de quitter leur lieu de résidence d'origine, d'abandonner maison et terre cultivée, et la dimension volontaire de fuite que le terme de réfugié induit. Alors, à l'origine, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés a permis de donner un statut officiel aux personnes persécutées demandant l'asile politique pour un autre pays. En 1957, évidemment, cette disposition internationale n'a aucun sens dans le contexte très particulier de, entre guillemets, maintien de l'ordre en Algérie française. À l'image d'expressions telles que pacification ou encore action psychologique, ce terme de réfugié entre dans la panoplie des moyens rhétoriques dont dispose l'armée pour qualifier ses propres actions. Réfugié, ça connote l'idée d'une protection, d'une opération de sauvetage en quelque sorte, qui n'a rien à voir avec la réalité évidemment vécue par les villageois. Ainsi, le général Ollier, donc, qui a été à partir de 1956 mis à la tête de la Grande Kabylie, a défini le processus de refuge comme, je cite, « le fait pour des familles, femmes, enfants, vieillards, impotents, de fuir une zone de trop grande insécurité pour se mettre à l'abri dans une zone contrôlée par l'autorité française ». Donc là, on voit bien la contradiction, puisque les réfugiés, en fait, ce sont en réalité une catégorie de suspects à part entière, à qui l'armée impose une certaine forme de regroupement dans des villages voisins. Et ces déplacements contraints ont été la conséquence aussi d'une autre politique liée à la mise en place, cette fois, de ce qu'on appelle les zones d'insécurité. Alors, cette fois, on va rentrer vraiment à l'intérieur des villages. Ces zones d'insécurité délimitent des endroits où les villageois sont censés être en sécurité et d'autres où ils ne le sont pas. Toujours hein, dans ce vocabulaire militaire. Très concrètement, ce qui se passe, c'est que l'armée va encercler le village de fil barbelé. On peut pas le voir, mais en tout cas, voilà, l'armée va délimiter en fait des zones où il y aura des zones d'insécurité et des zones où les villageois sont théoriquement censés être en sécurité. Et à partir du moment où ces fils barbelés ont été posés, dans les archives, dans les sources, l'armée considère que ces villages sont ralliés. Alors, ralliés, vraiment à garder entre guillemets, c'est-à-dire que pour l'armée, ça y est, les villages sont coupés des indépendantistes. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ces ralliements, entre guillemets, des villages, de nos deux villages, se sont faits à deux moments différents. Vraiment à la toute fin, quand on compare aux autres villages alentours, ça s'est vraiment fait sur la fin du conflit, avril 59 pour El Bouada et décembre 60 pour Mournia. Le tracé de ces zones a entraîné des expulsions de villageois de leurs propres maisons, soit pour des besoins d'installation du commandement, c'est-à-dire que tout simplement les militaires s'installent vraiment, on est vraiment dans la phase d'occupation du territoire au sens propre, soit parce que une partie du village se situe en dehors des fils barbelés. Et dans ce cas, ces villages sont aussi détruits, c'est-à-dire qu'en fait, on enlève les toits ou on brûle une partie du village. Ainsi, lorsque Mournia a été occupée par la 5e compagnie du 27e bataillon de chasseurs alpins en 60, c'est la partie haute du village, parce que le village était en fait... il y avait deux parties, une partie haute, une partie basse. C'est cette partie haute qui a été détruite parce qu'elle ne faisait pas partie de la zone définie par l'armée. Et la conséquence, c'est que tous les villageois qui y habitaient ont été contraints d'abandonner leur maison. D'autres villageois de Mournia, quant à eux, furent expulsés de leur maison car considérés, je cite, comme des éléments douteux, en particulier des familles de rebelles n'étant pas originaires du village. En somme, les années 1957 ont été marquées par un durcissement des contraintes imposées aux villageois par les autorités militaires françaises. Entre suspicion croissante et enlisement du conflit, les déplacements, qu'ils soient restreints ou contraints, ont été encadrés de façon poussée. Aussi, peut-on dire que l'espace local a été progressivement marqué par tous les stigmates d'un espace occupé militairement. Les marges de manœuvre, bien que faibles, ont pourtant existé et ont permis aux villageois de s'adapter et de détourner peut-être les contraintes imposées par l'armée française. Et nous avons tenté ici d'en donner quelques exemples. Enfin, il me semble que l'enquête orale, plus que jamais, je pense, doit être poussée pour ce type de conflit récent, car on peut vraiment accéder, il me semble, à certaines choses qu'on n'aurait pas forcément dans les sources écrites, et d'accéder à la voix de ceux qui sont éloignés de l'écrit, comme mes témoins. Merci.